Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous. Bon début de semaine à tous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de l'avenir de l'opération Barkhane au Sahel, d'autant que le président Macron demande à ses homologues sahéliens de clarifier leur position sur la présence militaire française et sur le sentiment anti-français qui monte, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ont-ils besoin de nous ? Je veux des réponses claires et assumées. Voilà ce qu'a donc déclaré la semaine dernière Emmanuel Macron. Et le président français de prévenir, si ces conditions ne sont pas remplies, alors j'en tirerai les conséquences. Autrement dit, la France ne restera pas. Alors quel avenir pour Barkhane ? Quelle doit être la réponse des présidents du Mali, du Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie ? On en parle ensemble ce matin dans une demi-heure. D'ici là, continuez à nous appeler. Vous êtes très nombreux. 1500 commentaires postés ce week-end sur la page Facebook de l'émission. Autant quasiment sur le compte WhatsApp. Donc continuez, c'est le sujet qui ne vous laisse pas indifférent. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, votre rendez-vous interactif avec la rédaction de RFI, vos questions sur l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, vous avez écouté le journal, il vous manque un complément pour mieux décrypter, mieux comprendre certains sujets. Eh bien, appelez-nous, toujours au même numéro, 33 9 693 693 70. Et pour ouvrir cette semaine, nous avons Mama. Bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Maroua, c'est au nord du Cameroun. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci. J'ai appris sur RFI que l'humoriste nigérien Maman a été nommé ambassadeur climat pour le Sahel. Comment expliquer cette nomination, Juan ? Quel va être son rôle en matière climatique ? Quelle est la priorité pour le Sahel, Juan ?
En matière climatique, évidemment. Beaucoup de questions que vous posez, Mahama. C'est vrai que le créateur de la célèbre République très très démocratique de Gondwana a été nommé ambassadeur de bonne volonté auprès de la Commission Climat pour le Sahel. Bonjour Maman.
Bonjour Juan.
En direct d'Abidjan, où le festival Abidjan Capitale du Rire a fermé ses portes hier, festival dont vous êtes le fondateur. Alors vous êtes, Maman, l'une des grandes voix de RFI. On vous retrouve tous les jours avec votre chronique satirique sur l'actualité africaine. Vous êtes désormais également ambassadeur de bonne volonté auprès de la Commission Climat pour le Sahel. Racontez-nous cette nomination, comment cela s'est passé, pourquoi vous a-t-on choisi ?
Alors, je rassure déjà notre auditeur parce que j'ai eu pas mal de messages de gens qui disent « Bon, donc tu es ambassadeur, on va plus t'écouter sur RFI ». Bon, il faut qu'ils sachent déjà que j'aurais pas une Mercedes, corps diplomatique. J'aurais pas de bureau, j'aurais pas de salaire. C'est bien dit, ambassadeur bonne volonté, ça veut dire que c'est la bonne volonté, Mon rôle, ça sera d'être une sorte de haut-parleur, une sorte de tam-tam, pour revenir en des termes plus gondouanais, pour le climat, pour la sensibilisation. Parce qu'en tant qu'humoriste, Juan, vous l'avez rappelé, ça fait 10 ans que je suis à l'antenne de RFI avec la chronique sur la très très démocratique république, et beaucoup de gens m'écoutent, beaucoup de gens regardent mes vidéos, et viennent à mes spectacles, le festival, Abidjan Capitale du Rire, l'émission Parlement du Rire, ça fait une audience.
Tout à fait.
Et cette audience, c'est de la responsabilité. Et donc, il faut que cette responsabilité soit utile à quelque chose.
Vous allez donc utiliser votre notoriété pour faire passer des messages évidemment en direction des citoyens, mais j'imagine aussi auprès des dirigeants, auprès des politiques.
C'est ça, auprès des dirigeants, auprès des partenaires techniques et financiers, parce que on dit Sahel, il y a un terme Sahel politique et puis un terme Sahel géographique. Là, vous avez parlé du G5 Sahel tout à l'heure pour l'opération Barkhane, mais le Sahel ne se résume pas au Niger, aux 5 pays du Sahel. Et ça part du Sénégal, la rive atlantique, la rive ouest, jusqu'à Djibouti, jusqu'à la mer Rouge. Et ça fait en gros 18 pays. qui sont concernés par ce dérèglement climatique. D'ailleurs, on ne dit plus changement climatique ou réchauffement climatique. Les gens préfèrent aujourd'hui dire crise climatique. Donc, pour montrer qu'il y a une urgence là-dessus. Et mon rôle, donc, ça sera d'aller vers vraiment vulgariser, montrer qu'il y a une crise, il y a une urgence dans ça.
Alors, justement, vous parlez d'urgence, elle est indéniable. Mahama, qui nous appelle de Marois, nous dit mais quelle est la priorité aujourd'hui pour le Sahel en matière environnementale concernant la protection de l'environnement?
Mais Mahama qui est à Marois, c'est dans le nord du Cameroun, il est en plein dans le Sahel et aujourd'hui il est pas loin du lac Tchad, et le lac Tchad, quand on regarde, il y a 50 ans, il y a un siècle, le lac Tchad se rétrécit, il diminue en surface, et donc du coup toute la zone vivable là-bas diminue, ce qui explique aussi les migrations des migrants climatiques et aussi le phénomène de Boko Haram. Donc tout ça est lié, et les priorités, bah, c'est ça, c'est s'occuper de l'assèchement des lacs de la région du Sahel et aussi le reboisement en partant du Sénégal jusqu'à Djibouti, donc en passant par le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan, le nord du Cameroun, le Burkina Faso, le nord de la Côte d'Ivoire. Tous ces pays font partie du Sahel. Et cette priorité, elle va là. La dégradation de ces écosystèmes a des conséquences terribles. On le voit tous les jours. Le terme réchauffement climatique, les gens qui vivent dans des régions où il fait moins chaud se disent que bon, nous on n'est pas concernés. Mais même ceux qui habitent dans les côtes, là je suis à Abidjan, il y a l'érosion côtière qui est quelque chose de très, très dramatique.
En tout cas, on vous entend, Mamane, et on voit bien que cette nouvelle fonction vous tient à cœur. Votre discours est bien rodé, on compte sur vous. Quand je dis on, ce sont les citoyens, les auditeurs, les fans de Mamane, pour justement défendre cette cause. Mahama, a-t-on répondu à votre question? Est-ce que vous êtes satisfait des explications de Mamane?
Bien satisfait, monsieur Juan Gomez.
Eh bien, Mamane, bonne journée à vous, à Abidjan. Mamane, humoriste, producteur et désormais donc ambassadeur de bonne volonté auprès de la Commission Climat pour le Sahel, qui, rappelons-le, comprend 17 pays. Vous souhaitiez rajouter quelque chose, Mamane?
Non, c'est juste de dire que les gens qui m'appelaient président peuvent continuer à m'appeler président au Gondwana, on cumule. Donc je serai président ambassadeur.
Toujours avec de l'humour. Merci Mamane, à très vite et à demain évidemment pour votre chronique quotidienne satirique sur l'actualité africaine. 9h18 ici à Paris, vos questions 33 9 693 693 70. Bonjour Aimé.
Oui, bonjour Anne.
Vous nous appelez de Bamako, au Mali, et vous avez des questions concernant les mouvements Touareg du nord du Mali.
En effet, le MNLA, un mouvement armé dans le nord du Mali, a tenu son congrès à Kidal, un mois après celui du ACIA.
Oui.
Alors, peut-on s'attendre à une fusion des groupes armés dans le nord Mali?
Ah. Effectivement, ça a été évoqué, cette fusion de tous les mouvements armés, mouvement Touareg du nord du Mali. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Correspondant de RFI au Mali, peut-on s'attendre à une fusion de tous les groupes armés du nord du pays?
Oh, peut-être pas une fusion dans l'immédiat, Juan. Chaque groupe a son identité, sa doctrine. Le MNLA, qui est une fusion du MNA et du MTNA, est indépendantiste. Depuis sa création en 2011, le MNLA réclame l'indépendance d'une partie du nord du Mali, alors que le ACUA, le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad, est plutôt autonomiste. D'ailleurs, les députés à l'Assemblée nationale, membres proches du ACUA, sont quasiment tous du parti au pouvoir, le RPM. Précisons également que le ACUA, dont les leaders ont appartenu au groupe islamique en Sardine ou encore au MIA, c'est-à-dire le mouvement islamique de l'Azawad, est militairement plus lourd, si vous permettez l'expression, que le MNLA.
Oui, mais enfin Serge, il y a quand même des passerelles qui existent entre ces deux mouvements.
Ah oui, tout à fait, des passerelles existent entre les deux. Déjà en 2012, lors de la prise du contrôle du nord du Mali par les groupes armés, les deux mouvements politico-militaires à dominante Touareg étaient dans le même camp contre l'armée malienne. Et un an après, ils avaient une position commune lors de l'accord de paix de Ouagadougou, on se souvient, Ouagadougou avant Alger. Aujourd'hui, disons que dans un premier temps, les deux mouvements vont renforcer leurs relations en Rouen, Il contrôle ensemble déjà la ville de Kidal, vous le savez.
Oui.
Et après le congrès du HCIA, le MNLA a tenu son congrès. Les deux vont très probablement renforcer leur relation au sein d'un mouvement politique, pas un parti politique, mais un mouvement politique. Mais la fusion, pour la fusion, il va falloir probablement attendre encore un peu.
Un peu de patience donc, en tout cas sur le papier, l'idée étant de fusionner pour que ces deux mouvements parlent d'une seule voix. Aimé, vous aviez une autre question ?
Oui. Vu que les accords d'Alger piétinent, alors quel impact ce congrès pourrait-il avoir sur les accords d'Alger et sur la paix au Mali?
Alors l'accord d'Alger, l'accord de paix conclu en 2015, ces deux congrès qui se sont tenus donc à 3 semaines d'intervalle, peuvent-ils avoir un impact sur l'application de l'accord, Serge Daniel?
Alors d'abord parlons de la paix, c'est plus simple à mon avis. La paix dans le Nord, les deux groupes vont dans un même rassemblement, sont dans un même rassemblement, qu'on appelle la coordination des mouvements de la loi de la CEMA, l'ex-rébellion, qui a une présidence tournante. Alors même s'il y a quelques divergences, il n'y a pas de doute, pour la paix dans le Nord, les deux mouvements vont de plus en plus coordonner leurs positions, leurs actions, se partager les rôles, disons-le clairement, l'un jouant au faucon et l'autre probablement à la colombe.
Oui, alors ça c'est pour la paix, mais sur l'application même de l'accord de paix d'Alger.
Alors sur l'application de l'accord de paix d'Alger, qui est poussive, hein, disons-le, les deux mouvements l'ont rappelé lors de leur congrès respectif, pas question de toucher à l'accord de paix d'Alger, comme le souhaitent certains ici, notamment sur deux points, l'élection des futurs présidents des assemblées régionales, notamment dans le Nord. Ils auront plus de pouvoir que le représentant de l'exécutif, c'est-à-dire le gouverneur de région. Ensuite, ils tiennent à un article, comme à la prunelle de leurs yeux, de l'accord de paix d'Alger, un article qui parle de présence de manière significative des ex-combattants dans la nouvelle armée reconstituée.
À suivre donc. Aimé, bonne journée à Bamako. On remercie évidemment Serge Daniel qui est notre correspondant au Mali. On aura certainement l'occasion de parler de ce projet de fusion entre les grands mouvements Touareg du Nord du Mali. 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur l'Algérie. Bonjour Médard.
Bonjour Juan, bonjour l'Afrique.
Merci de nous appeler du Bénin. Nous vous écoutons. Allô Médard, êtes-vous là? Ah, Médard a disparu, ça a coupé. Avons-nous peut-être Kalilou? Est-ce que Kalilou est avec nous? Alors j'accueille Kalilou, bonjour.
Bonjour Rouhané, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez des questions, vous, sur la récente tournée africaine du patron de la FIFA, Gianni Infantino?
Oui, lors de sa tournée en Afrique, le patron de la FIFA a annoncé vouloir créer une ligue de foot africaine et ainsi encourager les investissements sur le continent. Alors, pourquoi vouloir créer cette ligue alors que nous avons déjà la Ligue des champions de la CAF?
C'est vrai que le président de la FIFA a des projets pour le football africain, des investissements massifs, de nouveaux stades et donc la création d'une ligue africaine. Christophe Jousset, bonjour.
Bonjour Juan.
Christophe Jousset du service des sports de RFI. Il veut, en parlant de Gianni Infantino, il veut prendre les 20 meilleurs clubs d'Afrique pour les faire jouer dans une ligue africaine. C'est son projet donc?
Oui, c'est ça. Ben, il a un peu surpris avec ses déclarations à Lubumbashi. C'était à l'occasion des 80 ans du tout-puissant Mazembe. En présence donc de Moïse Katumbi, qui est le président de ce club de Mazembe. Et donc l'un des clubs qui naturellement a vocation à entrer dans ce projet, s'il voit le jour, au même titre que l'Espérance de Tunis ou les Égyptiens d'Al Ahly. Donc l'idée, si on a bien compris le projet de Gianni Infantino, c'est de générer plus d'argent de façon à développer le foot africain. Et il a même dit qu'il voulait porter le foot africain au sommet du monde.
Oui, et il dit même que cette ligue africaine est censée générer au moins 200 millions de dollars de revenus annuels.
C'est ça, et donc ce serait un cercle vertueux et les investissements produiraient de l'argent et ça développerait le foot africain. Là où il ne précise pas, il y a beaucoup de questions qui se pose après cette intervention du président de la FIFA, c'est quelles conséquences pour l'actuelle Ligue des Champions qui est toujours organisée par la CAF.
La question de notre auditeur est légitime.
Bien sûr, on n'a pas la réponse. Il faut bien le dire. Il ne l'a pas précisé. Et en attendant, on a juste ces quelques paroles que l'on vient de citer. On ne sait pas vraiment quel sens donner à cette annonce, mais elle nous fait forcément penser ce projet de ligue fermé, hein, nous fait forcément penser à ce qui est à l'œuvre depuis pas mal d'années en Europe, puisque il y a pas mal de partisans de la création d'une ligue fermée. On jouerait simplement avec les clubs les plus riches et les plus puissants d'Europe. Le projet se heurte à des résistances, notamment les ligues nationales. Mais il y a eu une info qui a été sortie il y a quelques jours par le New York Times et qui est intéressante par rapport à ça. C'est que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait en train de défendre en coulisses actuellement un projet de Super Ligue européenne. Il y aurait deux divisions de 24 clubs à l'horizon 2024. Un projet qui donc dépouillerait l'actuelle Ligue des Champions de l'UEFA à partir de 2024. Vous voyez qu'on peut quand même dresser un parallèle entre les ce qui se murmure dans la coulisse en Europe et les déclarations d'Infantino
en
Afrique. Est-ce que ce sont les pièces d'un puzzle qui sont en train de se mettre en place petit à petit? En tout cas, l'UEFA ne décolère pas. Seferin, le président de l'UEFA, a pris la parole pour dire que c'était une idée égoïste qui venait d'un seul président de club, et donc Florentino Pérez, et d'un dirigeant du foot mondial. Et là, on reconnaît Gianni Infantino.
Directement visé, effectivement. Khalilou, vous avez une autre question?
Oui, Infantino avait aussi annoncé vouloir récolter 1 milliard de dollars pour la construction et l'amélioration des stades en Afrique. Où compte-t-il trouver cette somme et sera-t-elle suffisante?
Ah, Infantino veut construire au moins un stade répondant aux normes FIFA dans chacun des 54 pays africains. Il va falloir beaucoup d'argent.
Oui, il a lancé un appel aux investisseurs, donc toujours à Lubumbashi, pour réunir ce milliard de dollars. L'idée, c'est de doter chaque pays d'un stade aux normes internationales. Alors, quels investisseurs sont susceptibles de s'engager? On va se contenter de cette question. À quelle échéance cet investissement aurait-il lieu? On ne le sait pas non plus. Pour l'instant, Juan, on a surtout des questions. Et on attend que la CAF aussi s'exprime sur ce sujet, puisque de ce qui s'est passé à Lubumbashi il y a une dizaine de jours, on n'a entendu que la voix de la FIFA.
À suivre donc. Khalilou, on vous souhaite une bonne journée. Merci infiniment de votre fidélité, Christophe Jousset. À très vite dans cette émission.
À très bientôt.
Vous savez qu'on est ouvert tous les matins.
Mais bien sûr.
8h10 temps universel, 9h10 heure de Paris. Vos questions à la rédaction 33 9 693 693 70. On avait prévu des questions sur l'Algérie, mais visiblement, on a eu un petit souci. On a pris un peu de temps. On va essayer de rappeler évidemment Médard demain pour qu'il puisse s'interroger sur ce procès qui se déroule, procès qui constitue une première en Algérie, puisque deux anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres sont jugés pour corruption et notamment pour avoir contribué à financer la campagne de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Un procès qui se déroule, et ça ne vous a pas échappé, ni à la société civile algérienne d'ailleurs, à quelques jours de l'élection présidentielle, scrutin, je vous le rappelle, prévu ce jeudi 12 décembre. 33 9 693 693 70. Vous êtes des centaines au standard, des milliers sur nos réseaux sociaux pour commenter cette petite phrase d'Emmanuel Macron, phrase prononcée la semaine dernière à la fin du sommet de l'OTAN. Et le président français demande des explications à ses homologues du Sahel avec en toile de fond, vous savez, la situation qui se détériore, situation sécuritaire sur le terrain, mais surtout ce sentiment anti-français, ces voix ici et là qui prennent de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux, pour dénoncer la présence militaire française. Donc le président Macron demande aux chefs d'État de leur dire: souhaitez-vous véritablement que Barkhane se poursuive? Et surtout, quelle est votre position, votre sentiment à l'égard de ce mouvement anti-français qu'on constate clairement au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger? Quelle doit être donc la réponse des dirigeants sahéliens? Ils sont attendus dans tout juste une semaine, lundi, à Pau. Eh bien, c'est de cela que nous allons débattre juste après le journal. Donc, continuez, 33 9 693 693 70. Et c'est promis, même si je n'ai pas pu lire l'ensemble des réactions postées sur nos réseaux sociaux, j'en lirai quelques-unes pour alimenter le débat. Certaines sont virulentes, assez radicales, mais tout le monde a le droit de s'exprimer, évidemment, comme tous les matins, sur l'antenne de RFI. Il sera 8h30 en temps universel dans quelques secondes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.